Les filles sont mail.
Depuis près d'un siècle, 70 000 personnes ont été exilées dans cette colonie française en Amérique du Sud. Tous sont condamnés aux travaux forcés. Pour des peines de 1 à 8 ans, ils sont obligés de rester encore en Guyane un temps égal à celui de leur condamnation. Si la peine est supérieure à 8 ans, c'est l'exil à perpétuité.
Le ministère des colonies va prêter des bateaux civils pour transporter les bagnards en Guyane. Les trois derniers, vous avez, il y en a un qui s'appelait la ville de Saint-Nazaire. Avant la guerre 14-18, il y en a un qui s'appelait la Loire. Et après la guerre 14-18, le dernier a transporté les bagnards sur la Guyane. Il s'appelait la Martinière. Voilà. C'est 18 jours de traversée directe entre Saint-Martin-de-Ré et Cayenne, hein, enfermé en cage, bien entendu. Les îles du Salut vont être rapidement saturées. 8 mois plus tard, on va ouvrir un deuxième site terrestre qui s'appelle l'île et la mer, au nord de Cayenne, dans un niveau de 50 hectares. 2 ans plus tard, on va ouvrir un troisième site terrestre qui s'appelle la Montagne d'Argent. Et puis, 4 ans après l'arrivée des premiers bagnards, on va ouvrir un quatrième site terrestre qui s'appelle Saint-Georges de l'Oyapock. 5 ans plus tard, 5 ans après l'arrivée des premiers bagnards, on va ouvrir un cinquième site terrestre qui s'appelle Saint-Laurent-du-Maroni.
Tous les habitants de Saint-Laurent se sont réunis sur le port pour voir débarquer la triste théorie de la croisière du crime. C'est lorsque son pied se pose sur le sol de la Guyane que le condamné devient vraiment un forçat. Vous qui entrez, laissez toute espérance. Les hommes abandonnent leurs vêtements de bure, seul souvenir de la France perdue, pour endosser le bourgeron et le treillis. Cette fois, ce sont de vrais forçats. Leur travail, d'autant plus dur qu'il leur semble sans but, va commencer.
Les tâches les plus dures sont celles de forestiers. À Saint-Jean, les premières causes de mortalité sont le paludisme, la fièvre jaune, la dysenterie et la tuberculose. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les privations et restrictions seront telles que près d'un tiers de ces hommes ne survivra pas.
D'abord, en venant ici, vous perdez l'évasion, l'espérance d'évasion. Et pour un condamné aux travaux forcés à perpétuité, l'espérance d'évasion, c'est ce qui lui permet de survivre.
C'est à Saint-Joseph, la troisième île, que les conditions de détention sont les pires. À Saint-Joseph sont envoyés ceux que les autorités veulent sévèrement punir. Ce sont des porte-clés qui distribuent la nourriture aux détenus par de petites trappes. Les punitions peuvent se prolonger des années. Les bagnards sont surveillés depuis ce chemin de ronde au-dessus des cellules. Sur le plancher, il y a de la paille pour étouffer le bruit des pas lors de rondes discrètes et en chaussons. Ces bagnards sont des relégués, c'est-à-dire qu'ils n'ont commis que des délits mineurs, mais ce sont des récidivistes et la justice les considère comme incorrigibles. Ceux qui meurent au bagne n'ont pas droit à une sépulture. Ils sont jetés dans des fosses communes. En 1939, pour une guillotine en France, il y en a 2 en Guyane. L'autre sert dans les îles du Salut. C'est dans l'une des cours, sur les 5 pierres plates qui sont au sol, que la seconde guillotine est installée pour les exécutions. Le bourreau porte la main sur la nuque du condamné. Au pénitencier, les exécutions sont toujours confiées à des bagnards.
Donc lorsqu'il y a une exécution capitale, la veille au soir, la guillotine est dressée au milieu de la cour. Entre 5h et 5h30 du matin, il fait nuit encore en Guyane. Surveillants et porte-clés vont aller réveiller le condamné à mort dans les cachots noirs. Ils vont aller le réveiller brutalement, pour ne pas qu'il ait de réaction négative. On va l'emmener à l'hôpital des Bagnards, prendre une superbe collation. Et pendant ce temps-là, on va faire sortir des cachots les Bagnards les plus durement condamnés. Et ces gens-là, on les met à genoux de chaque côté de la guillotine, là, pour leur montrer qu'après la peine dont ils ont été condamnés, il ne reste pratiquement plus que la peine de mort. Et puis, naturellement, c'est l'exécution capitale, bien entendu.
Voici ce qui nous conduit tout naturellement jusqu'au jardin de la résidence où nous rencontrons les premiers forçats chargés de leur entretien. Fort peu dramatique en vérité ce premier contact. Et quoi? C'est cela le bagne? Pas de bruit de chaîne? Pas de coup de fouet? Pas de vexation? Pas de violence? Non. Nous sommes devant des esclaves sans doute, mais libres en apparence. Tant est discrète la surveillance de leurs gardiens et qu'on pourrait prendre à première vue pour de paisibles paysans de France, cultivant comme Candide leur jardin. Une cigarette? Pourquoi pas, si le surveillant a le dos tourné.
Ce documentaire, d'une durée de 28 minutes, était destiné à passer dans les salles de cinéma. Mais la guerre est arrivée, et il est resté longtemps dans un tiroir. Parmi les très nombreuses situations filmées, mal à l'aise, un peu trop dirigées, mécontents, peut-être même en colère, ils sont plusieurs à baisser la tête, pour cacher leur visage derrière leur chapeau.
En 1941, nous dit Robert Badinter, le gouvernement de Vichy ne pouvait ignorer les conditions de vie des relégués du bagne. Ces personnes dont la France souhaitait se débarrasser, souvent envoyées en Guyane, pour de simples délits et surtout pour récidive après plusieurs condamnations. Des condamnés à vie, qui à de rares exceptions, réussissaient tout de même un semblant d'insertion sociale.
Dans la vie courante en ville, beaucoup de personnes pouvaient avoir en assignation des bagnards qui pouvaient travailler pour eux. Évidemment, ils avaient une session à payer. Et naturellement, lorsque vous travaillez chez moi, bon, je vous donnais de la main à la main un petit pécule qui rentrait dans votre poche et qui servait à vos émoluments de la vie, cigarettes, boissons, etc.
Ceux qui vont au bout de leur peine n'ont pas les moyens d'acheter un billet de retour. C'est à eux de le payer. Les transportés travaillent gratuitement pour les services publics de la ville. D'autres sont envoyés dans des familles pour faire le ménage, la lessive. Ce sont eux aussi qui s'occupent des jardins.
Moi, personnellement, dans ma famille, j'ai eu l'occasion d'avoir un bagnard qui m'expliquait mes devoirs et mes leçons. Mes papas venaient ayant une mère guyanaise, donc ma mère est d'origine d'Irakoubo, et mon père était hollandais. Donc papa n'arrivait pas à nous expliquer nos devoirs. Il parlait plutôt l'hollandais, l'holance, le taki-taki. Mais pour nous parler le français, c'était très difficile pour mon père. Donc, papa avait un avantage d'aller au camp et de demander un de ses billets.
La plupart des libérés survivent difficilement. Il n'y a pas de travail et ils souffrent d'ostracisme. Des rues leur sont même interdites d'accès. Défense absolue aux libérés de circuler dans cette rue sous peine de procès-verbal. Le message est clair. Depuis quelques années, l'armée du salut s'est implantée en Guyane pour les aider, comme ici, avec des repas en échange de petits travaux. À Saint-Laurent, elle a ouvert un foyer d'accueil. Elle est la seule à aider les libérés à quitter la Guyane.
En 1941, on était aussi en pleine Seconde Guerre mondiale. Période d'instabilité politique et administrative. Époque aussi de grandes restrictions et de pénuries alimentaires. Les plus touchés par la guerre en Guyane, les plus fragiles, les sans argent, les sans emploi, les sans famille, les bagnards relégués. Des sans statut obligés donc de revenir aux travaux forcés dont l'essor avait quelques années plus tôt déjà été évoqué à l'Assemblée nationale.
J'ai mis un point d'honneur à faire supprimer ça. Il a fallu du temps. J'ai créé des associations avec des magistrats, notamment le premier président de la Cour de cassation, c'est pas n'importe qui, avec l'armée du salut, à laquelle on ne sera jamais assez reconnaissant. Car l'armée du salut a mis à ma disposition tout de suite Charles Péan, qui avaient la même conception que moi de l'évolution du bagne en attendant sa suppression légale, faire travailler les relégués, ceux qui avaient, comment dirais-je, terminé leur peine et qui étaient dans la rue sans rien, abandonnés, n'ayant même pas de quoi manger. C'est la population qui leur faisait la charité. C'était une honte.
40 morts par jour, entre 1941 et septembre 1943, date de la suppression définitive du bagne. 40 décès de relégués pour cause de mauvais traitements et maladies quotidiennement. Un réquisitoire plus de 70 ans après, pour éclairer une période de douloureuse mémoire.